Hassan de Sailly au second poteau et but.
But de Boli. But de Basile Boli sur ce corner.
Eh bien,
extraordinaire coup de tête de mon Basilou.
26 mai 1993, Basile Boli s'élève dans le ciel munichois. L'OM bat le grand Milan AC 1-0. À jamais les premiers. Les Marseillais remportent la Ligue des Champions. 30 ans après ce sacre, RTL consacre donc un podcast exceptionnel à cet anniversaire. Je suis Julien Cellier et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Vous allez revivre avec nous cette aventure avec des archives RTL, des pépites et avec des acteurs de ce match de légende. À mes côtés, Stéphane Tapie, le fils du président de l'époque, Bernard Tapie. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Avec nous également deux de ces champions d'Europe 93, un défenseur titulaire à Munich il y a 30 ans, Eric Dimeco, bonjour.
Bonjour Julien, salut Steph.
Et un milieu offensif, voix du foot du groupe M6 aujourd'hui, bonjour Jean-Marc Ferreri.
Salut Julien, salut Stéphane, salut à tous.
Alors avec vous, nous allons raconter l'avant-match, le match, l'après-match, l'extase, la liesse, la fièvre de Marseille à Munich. Et avant toute chose, pour mieux comprendre les secrets du sacre, eh bien il faut rembobiner, parce que tout ça a commencé au calme, au soleil, avec les oiseaux qui chantent dans une résidence typiquement bavaroise. À la campagne, à 60 km de Munich, c'était le camp de base de l'OM, les jours qui ont précédé la finale, camp de base à l'atmosphère visiblement très détendue. Stéphane Tapie, vous rejoignez l'équipe quelques jours avant, et vous avez été surpris par l'ambiance club de vacances, entre guillemets.
Surpris, oui et non, mais surpris parce que ça, on allait jouer une finale de Ligue des Champions, et non parce que mon père m'avait prévenu qu'il allait faire l'inverse de ce qu'il avait fait en 91. C'est-à-dire qu'au lieu de les mettre sous pression, il allait au contraire les laisser dans une ambiance très détendue et très festive et très familiale.
D'ailleurs, l'ambiance est tellement détendue que la veille du match, nous à RTL, on passe un petit coup de téléphone à Marcel Desailly, on est la veille d'une finale de Coupe d'Europe, et le défenseur, pas franchement stressé, passe 10 minutes au téléphone avec les journalistes de la radio.
Il n'y a pas de raison pour que l'on soit stressé, hein. Je crois que la pression va venir au fur et à mesure. Hein. Donc non, il faut vivre, il faut apprécier les choses, il faut être bien, quoi, en fait. Hein.
Pour passer le temps, vous jouez aux cartes, vous regardez la télévision, vous ?
Oui, voilà, il y a une salle de billard, on regarde un peu la télévision, on fait un peu de tout, quoi.
Eric Dimeco, ça paraît assez surréaliste d'être aussi détendu avant le match d'une vie. Les femmes, les gosses étaient conviés, c'est ça ?
Oui, oui, non, mais c'est vrai que Stéphane l'a expliqué, hein, en réalité, puisqu'on avait eu la chance de faire une finale 2 ans avant. Et ce soir-là, on avait eu tout faux, quoi. Nous, sur le terrain, mais aussi dans l'organisation. Et la force de Bernard, c'était aussi de tirer des enseignements de ce qu'on avait mal fait. Il nous avait bunkerisé, hein. C'était ça, à Bari. On était dans un hôtel avec la police italienne tout autour, on n'avait vu personne pendant 3 jours. Pour aller s'entraîner, il y avait un tunnel qui passait sous une route de l'hôtel où on était pour aller sur un terrain spécialement, tout fermé. Et donc on a joué le match 10 fois avant de rentrer sur le terrain, alors que là on a fait Club Med. Et puis Bernard était avec nous, il jouait au foot avec nous, il y a Chris qui nous a rejoué, qui a fait des entraînements avec nous,
ouais.
Ouais, Chris Waddle, et du coup ça s'est passé beaucoup plus vite, et comme par hasard, on est rentré sans pression.
C'est vrai que cette mise au vert de Bari 1991, la finale perdue contre les Étoiles Rouges de Belgrade, c'était l'opération un peu commando. On se souvient tous, toute la France se souvient des larmes de Basile Boli à la fin de cette finale perdue. Boli qui, à l'époque d'ailleurs, confirme que la façon d'aborder le match est cette fois-ci totalement différente.
On ne parle pas du passé, bien entendu, car ça c'est lointain.
Plus important pour nous maintenant, c'est d'essayer d'avoir une autre appréhension, une autre façon d'aborder le match, quoi.
Avec 50% de chance.
Ah, 50% de chance, vous êtes gentil.
Il y avait 3 rescapés de la finale perdue à Bari, Boli, Pelé et vous, Eric Dimeco. Est-ce que pour vous, personnellement, le souvenir, il était purgé? Ou est-ce que malgré l'ambiance Club Med, ça trottait encore dans les têtes?
Non, c'était inespéré. Moi, j'ai un souvenir prégnant, hein, de 91 et de Bari et de l'après-match. Quand tu es un club français, que tu as la chance de faire une finale de Ligue des Champions, quand tu as la chance d'être favori de cette finale, quand tu as la chance d'avoir éliminé le Grand Milan en quart de finale, et que tu la perds, en plus au pénalty, tu te dis, bon, mais c'est fini, on a laissé passer notre chance, on n'y reviendra plus. Et à l'arrivée, on y retourne 2 ans après. Moi, personnellement, je ne me voyais pas rejouer une finale de Coupe d'Europe. Je ne sais pas si Basile et Bédi y ont pensé, mais moi, je pensais même qu'on allait tous prendre, parce que bon, Bernard, il avait commencé à faire le ménage après ce match-là. Donc, et c'est pour ça qu'on est resté que 3-2 ans après, c'est rare d'ailleurs. Et parce que les losers n'avaient pas de place dans ce... Non, mais les losers n'avaient pas de place dans l'équipe de Bernard. Bernard Tapie. Voilà, donc c'était pas évident de penser, de pouvoir penser refaire une finale Coupe d'Europe quand on était un club français. Non.
Alors, groupe, vous l'avez dit, complètement renouvelé en seulement 2 ans. Pour ceux qui n'avaient pas connu Barry, Jean-Marc Ferreri, est-ce que ce souvenir, il était encore là? Est-ce qu'on en parlait avec les rescapés? Ou est-ce que finalement, pour vous, c'était tout nouveau, il n'y avait pas de pression?
Et non, les anciens, entre guillemets, n'en parlaient pas trop de Barry. Il y avait vraiment une super ambiance déjà entre nous. Et puis les accumulations de victoires dans le championnat, où on était quand même au-dessus du lot dans le championnat de France, ça a forgé ce groupe-là. Et c'est vrai qu'on était une équipe très très difficile à battre.
Dans ce contexte où on ne prépare pas toutes les têtes de la même façon, il y a un psy en quelque sorte, dans ce groupe. À votre service, c'est le président, Bernard Tapie, écoutez.
Avec les joueurs et à les ausculter individuellement, car ce n'est pas de la thérapie de groupe, contrairement à ce qu'on croit. Il n'y a pas un joueur qui a besoin de la même chose et ils n'ont pas besoin de la même chose tous les jours. Ils passent eux aussi par des phases comme ça, donc il faut être à leur écoute. Et souvent, ils dissimulent. Il faut donc essayer de comprendre, au travers un geste, une attitude, quel est leur état d'esprit. Il faut rassurer ceux qui ne le sont pas. Et il faut mettre un peu de doute et de pression sur ceux qui sont trop décontractés.
Stéphane Tapie, vous avez le souvenir de votre père un peu psy, capable de se servir de la carotte comme du bâton avant de tels moments importants comme une finale?
Oui, mais il aimait profondément ses joueurs, réellement. Et il a toujours dit, et Eric sera d'accord avec ça, l'équipe de 91, c'est la plus belle. C'est un football exceptionnel. Il ne faut pas oublier que de 91 jusqu'à 93, l'OM est numéro 1 en UEFA. Vous voyez, on parle du Grand Milan AC, mais l'OM était déjà devant au classement UEFA. Après, l'équipe de 93, c'est une équipe de tueurs. C'est une équipe de mecs qui ont des crocs, qui ont faim. Ils sont à l'image d'Eric. C'est des tueurs à gages, les mecs. Quand on voit Rudy Voller qui sort à la mi-temps, enfin après la deuxième mi-temps avec la bave, c'est parce qu'il a tout donné sur le terrain. Et quand on voit le regard des joueurs qui rentrent dans le fameux couloir, c'est là où on sait qui va gagner ou pas. Et je me souviendrai toute ma vie du regard d'Eric que j'avais jamais vu comme ça. Il avait ce regard, mais rien ne pouvait lui arriver. Et deux mecs m'ont dit. Vous parliez tout à l'heure de Chris Waddle qui est venu s'amuser avec eux.
Qui avait quitté le club et qui revient donc voir ses copains.
Qui est venu voir ses potes. Et quand je l'ai raccompagné, il m'a dit, ils vont la gagner. Ils sont pas sous pression, ils sont sûrs d'eux. C'est des rocs, ils vont la gagner. Et mon père, le 25 me dit, on est imbattable. Je te le dis, on va la gagner. Là, je suis sûr.
Alors d'un côté, il y a cette équipe sereine qui se prépare à la campagne. Mais pendant ce temps-là, pendant que cette équipe sereine se prépare à 60 km de Munich, il y a un pays, il y a une ville qui bouillonne. Parce que la France a vécu 3 jours d'ivresse collective avant, pendant, après le match. Il suffit de se plonger dans les archives RTL de l'époque. C'était pas la radio rouge, c'était la radio bleue et blanche pendant 3 jours. Les artistes, les hommes politiques à l'époque, tout le monde y va de son pronostic. Même le père de Jean-Pierre Papin, tiens, écoutez, pourtant désormais milanais, avait le cœur qui balançait.
Jean-Pierre a fait, disons, la totalité de sa carrière à l'OM. C'est l'OM qui l'a propulsé très en haut. Et maintenant, il est parti dans une grande équipe de Milan. Et c'est un fait que je ne sais pas de quel côté il faut prendre parti. Disons que si j'avais un club à choisir, ce serait le côté paternité. Donc, je voudrais que ce soit Milan qui gagne, mais pour Jean-Pierre seulement. Dans les deux cas, je serais content parce que si Marseille gagne, ce sera la première fois qu'une équipe française gagnera la Coupe d'Europe. Ce sera quelque chose de formidable.
Le père d'un Milanais qui a le cœur qui balance, c'est dire l'effervescence. Et puis le 25 mai au soir, la veille de la finale, vient l'heure de la grande migration. 25 000 supporters se dirigent vers Munich. 50 avions dédiés, 6 trains, 74 wagons spéciaux, des TGV de nuit, à l'ambiance assez particulière. Écoutez, ça vaut le détour.
Voilà maintenant près de 11 heures que les trains spéciaux de supporters de l'OM ont quitté Marseille. Certains n'ont pas vu passer la nuit.
On dort pas, c'est interdit de dormir.
Plus loin dans un wagon, un drame se joue.
Eh ben, on s'est retrouvé trop court.
On n'a pas eu assez pastis.
Non, il n'y a plus rien. Je sais pas si on avait beaucoup soif ou ce qui s'est passé. On a été vraiment à court, là. On boit de l'eau, mais ça n'a pas le même goût.
Ils vont au bar, là.
Ils vont au bar à tous les coups.
Ouais, on sera champion d'Europe.
Depuis le camp de base, Eric Dimeco, à l'époque, on était dans un monde où tout le monde était moins connecté. Est-ce que vous vous rendez compte de l'effervescence, de la folie qui gagne Marseille et qui gagne le pays?
Aucunement, même si on savait que Marseille s'arrêterait de vivre, notamment de vivre pendant toute la finale. Connaissant bien cette ville, on sait ce qu'est le rapport qu'elle a au football. Mais après, c'est vrai que là, on était loin de tout ça. Et c'est justement une des forces de se couper de l'extérieur. Voilà, mais moi, tous mes potes qui sont montés à Munich, quand ils me racontent ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé la journée à Munich avec les supporters du Milan, d'ailleurs, parce qu'il y avait une super ambiance dans les rues de Munich, de clubs qui se respectaient, de groupes de supporters aussi qui se respectaient. Voilà, ils en ont des souvenirs impérissables encore aujourd'hui.
Plus le coup d'envoi se rapproche, plus la confiance règne. Et dans les heures qui précèdent le match, les analystes, les spécialistes, les supporters misent encore un peu plus sur l'OM. Marseille devient presque favori dans l'opinion publique. Et Bernard Tapie tient à tempérer l'enthousiasme public, l'enthousiasme ambiant, et notamment des fans.
Ils nous craignent, on va les manger. Voilà. On la gagne, c'est obligé.
Oh, on va manger des spaghettis à la bolognaise.
Une escalope à la milanaise.
Il y a une espèce d'euphorie ambiante qui fait que presque tout le monde a l'impression qu'on est en situation de favori maintenant. Ce qui est totalement inexact. Actuellement, sur le papier, il faut absolument qu'on sente la réalité de la tâche qui nous attend et qui place aujourd'hui Milan. Et c'est pas de la modestie, hein, c'est vrai. C'est Milan pour l'instant est favori largement.
Le grand Milan, comme on disait à l'époque déjà quatre fois vainqueur de la Coupe des clubs champions. Eric Dimeco, justement avant le match, vous tenez à préciser, à rappeler le pédigré adverse.
Je crois que ça fait 5 ans qu'ils jouent de la même manière. Ça fait 5 ans, même s'il y a quelques joueurs qui ont changé. C'est toujours le même schéma tactique, avec Van Basten, bon, qui est pratiquement sûrement le meilleur joueur du monde. Et il n'y a pas beaucoup de faiblesses dans cette équipe-là.
Elle faisait peur, cette équipe, Eric. En Ligue des Champions, cette année-là, c'était 10 matchs, 10 victoires, un but encaissé, Milan.
Bah, si on se souvient de ce que représentait le Milan à l'époque, c'est ce qu'a été ou ce qu'est le Real en ce moment, ce qu'a été le Barça aussi à un moment donné, c'est-à-dire une institution forte, mais surtout avec Sacchi, notamment en 91, quand on les rencontre, une équipe qui a révolutionné le jeu. Et donc, ils avaient des Hollandais, Rijkaard, Gullit, Van Basten, qui étaient ce qui se faisait de mieux au monde, plus les meilleurs Italiens, et une génération extraordinaire. Mais la force qu'on avait cette saison-là, c'est qu'on les avait déjà éliminés en 91 et qu'on n'était pas favoris, et toute la pression était sur eux. Et ce que nous, on a vécu en 91, c'est-à-dire être favoris de ce match-là, et ce qui nous avait peut-être un petit peu trop pesé, ils l'ont vécu, et malgré toute l'expérience qu'ils ont eue, et là où Bernard était fort, c'est qu'il nous disait toujours, hein, il faisait toujours en sorte, quand on était trop confiant, il faisait toujours en sorte de nous faire peur, parce qu'il est parti du principe que le joueur qui a peur, enfin peur, la bonne peur, hein, joue à 120%. Sa force, c'était de venir s'asseoir à côté de toi à table pour t'expliquer que l'avant-centre que tu vas rencontrer en Ligue 1 du FC Metz, sans vouloir dénigrer le FCM, c'était le meilleur attaquant du monde, quoi. Voilà, pour pas que tu t'endormes. Et là, ben, contre Milan, c'est vrai qu'il a senti à un moment donné une effervescence qui était un petit peu trop pour lui. Voilà, il voulait qu'on reste les outsiders et qu'on ait peur du Milan AC parce qu'il savait qu'on allait leur marcher dessus.
Alors venons-en justement au jour du match. Vient l'heure du départ au stade le 26 mai dans l'après-midi. C'est 60 km jusqu'à l'Olympiastadion en quart. Visiblement, la préparation façon famille porte ses fruits façon Club Med, parce que Stéphane Tapie, vous avez été marqué par l'absence de stress, notamment chez un gamin de l'époque, un certain Fabien Barthez. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je crois que j'étais pas le seul à être...
Il s'est endormi pendant le trajet vers le stade?
C'est surréaliste, mais ouais, c'est vrai, il s'est endormi. Voilà, il était au fond et il y a eu une espèce de ronflement parce que les joueurs commençaient à rentrer en concentration, à se préparer psychologiquement pour le match. Et puis, donc il y a un silence un peu pesant et puis d'un coup, t'entends un ronflement dans le fond, quoi. Et puis tu te dis, c'est pas possible, il n'y a pas quelqu'un qui dort. Alors, on a tous pensé que c'était Goethals, parce que bon, vu son âge. Et ben non, c'était le plus jeune, c'était Barthez, qui a fait sa petite sieste.
Alors, pour mieux comprendre l'état d'esprit de Barthez, qui était encore semi-professionnel quelques mois plus tôt, hein, il faut écouter cette archive d'avant-match.
Mais c'est vrai, l'espace d'un an et demi, deux ans, je suis passé de la 3e division à une finale de Coupe de Club Champion. C'est vrai que c'est assez, c'est allé assez vite, quoi. Bon, ben, c'est la vie, c'est comme ça, hein. J'ai eu la chance avec moi, donc pour le moment, ça s'est bien passé, je touche du bois pour que ça continue, quoi.
Voilà, c'est la vie. Ce gamin-là, Eric Dimeco, que vous aviez vu arriver quelques mois plus tôt dans le groupe, qui devient titulaire, qui sera décisif, on va en parler pendant la finale. Vous aviez aussi l'impression que la pression glissait complètement sur lui ?
Oui, on parlait des différentes générations et des qualités, qui est plus fort, qui est pas plus fort. Une chose est sûre avec cette équipe-là, si demain je dois partir à la guerre, je pars avec cela, hein, parce que justement il y avait une forme d'insouciance et de solidarité, de combativité, qui fait que voilà, on craignait personne. Et Fabien. Moi, j'ai souvenir de son arrivée, puisqu'il est arrivé sur la pointe des pieds. On était en stage à Font-Romeu. J'ai vite vu qu'il avait un très bon jeu au pied, parce que avant les matchs amicaux qu'on faisait là, il aimait être dans le champ et jouer au pied. Donc, je me suis dit, tiens, il a un truc en plus, ce gamin, au niveau des pieds. J'ai vite vu qu'il était un peu jobard. Ça, ça se voyait vite. C'est-à-dire, quand je dis jobard, au bon sens du terme, c'est-à-dire insouciant, quoi. Et puis, la manière dont il rentre dans l'équipe, c'est-à-dire Pascal se blesse, du jour au lendemain il est appelé, il joue contre Monaco, il va faire un crochet à Klinsmann, je sais pas ce qu'il fait dans ses 18 mètres sur un ballon en retrait. Et là je me suis dit, ouais, celui-là il a une graine quand même, mais par contre qu'est-ce qu'il est fort, et ce qu'il fait, probablement c'est simple, cette finale, c'est lui qui la gagne. Quand tu es sur le terrain, que tu prends la marée pendant un quart d'heure, 20 minutes, et que ton gardien te fait trois arrêts de grande classe, et que tu vois que ton gardien est touché par la grâce, ben, tu te dis, bon, ben, c'est bon, et voilà, des matchs comme ça, on en commente plein, hein, des équipes qui dominent, qui doivent marquer, qui ne marquent pas et qui perdent à l'arrivée. Mais on l'a senti sur le terrain, grâce à lui.
Alors, Barthez Assoupi et les 15 autres joueurs arrivent enfin à l'Imstadion de Munich, théâtre de cet OM Milan. Les 25 000 fans bruyants de l'OM sont déjà en tribune. Face à eux, les non moins bruyants tifosi rouge et noir du Milan. Didier Deschamps dira plus tard, quand on a vu la ferveur de nos supporters, je le cite, hein, là on a compris qu'on n'avait pas d'autre choix que de gagner pour eux. Vous vous souvenez du moment où vous allez reconnaître la pelouse ? Vous voyez cette tribune bleue et blanche, Eric ?
Ah, complètement. J'en ai le frisson d'ailleurs, parce que le stade était magnifique. C'est-à-dire rouge et noir d'un côté et blanc de l'autre côté. Mais c'était vraiment, le stade était vraiment coupé en deux. Il faisait super beau, ce stade ouvert, qui n'est pas un des plus beaux d'Europe, mais qui ce soir-là était extraordinaire. Et bien sûr que j'ai un grand, grand souvenir, parce que quand tu rentres sur la pelouse, que tu vois ça, tu dis, waouh, et là, il va se passer encore un truc extraordinaire. On en avait vécu des grandes soirées, mais celle-là, elle sentait déjà la poudre. Oui, oui, on sent ces choses-là, c'est clair.
Et vous, Stéphane, vous qui n'étiez pas parmi ces joueurs, vous n'alliez pas taper dans ce ballon sur la pelouse de l'Imstadion de Munich, vous qui étiez aux côtés de votre père, du staff, quels souvenirs vous en gardez ? À la fois de l'entrée dans le stade, des causeries d'avant-match, du comportement des joueurs, vous parliez du tunnel tout à l'heure.
J'ai surtout souvenir du schéma tactique dernier moment que mon père fait, et Eric s'en souvient. Milan avait deux hommes extrêmement forts, c'était Paolo Maldini qui passait son temps à monter, les fameux arrière latéraux qui montent, lui c'était un cador dans le domaine, et les grandes relances de 50 mètres de Baresi. Donc il avait demandé à Bédi Pelé de ne jamais lâcher Maldini. Donc quand Maldini avançait, bah, Pelé il reculait avec lui, et vice-versa, il lui mettait la pression en permanence. Et sur Baresi, il avait demandé à Boxich et à Voller, consécutivement, d'aller presser Baresi pour pas qu'il fasse de relance. Et bah, ça a un peu déstabilisé le jeu du Milan AC, et moi, j'ai vu dans les yeux, mais surtout ceux d'Eric, parce que ils étaient que trois d'anciens. Il avait les yeux d'un mec qui voulait la gagner.
Avant d'en venir au match, juste Jean-Marc Ferreri, vous, quel souvenir vous gardez de ces derniers moments qui séparent le groupe du coup d'envoi ? Dans le vestiaire, qui prend la parole ? Qui anime la causerie ? C'est Deschamps, le capitaine ? C'est Goethals, l'entraîneur ? C'est le président, Bernard Tapie ?
Je crois que Bernard était omniprésent, parce que c'était un meneur d'hommes exceptionnel. Il savait trouver les mots justes pour chaque joueur, le motiver, les prendre un par un. Ça, c'est son énorme force, elle était là. Et ensuite, ouais, je pense que la Dèche a dû parler. Mais à la limite, il n'y avait pas besoin de parole, quoi. Les regards en disaient long. Et je pense qu'Eric, il n'avait pas besoin d'une finale d'ailleurs pour être habité, parce que tous les matchs au Vélodrome, il l'était déjà, mais je crois que c'était la caractéristique de notre équipe, c'est-à-dire que tous les défenseurs, que ce soit Marcel, Basile, Jocelyn ou même Jean-Jacques Edli, ils étaient déjà à 2000% dans leur tête avant la finale. Donc il n'y avait pas besoin de se motiver, de se parler. Quand tu joues une finale face au Milan, et tu sais que tu dois être à 200% parce que si tu l'es pas, des mecs comme Van Basten, ils peuvent te faire la misère. Donc tout le monde était à 2000% et il y avait une concentration évidemment extraordinaire avant la rentrée avant le début de ce match.
Il y avait un garçon qui était important aussi, qui était sur le banc ce soir-là, mais qui avait été titulaire voire capitaine de l'équipe en début de saison. C'était Bernard Casoni, qui est entraîneur derrière, et c'est pas étonnant parce que c'est quelqu'un qui avait déjà réfléchi sur le jeu et qui était un leader naturel aussi. Voilà, donc dans le vestiaire. Où qu'on se tourne et qui qu'on regarde, quand on est dans ce vestiaire-là, il y a toujours quelqu'un qui te rassure ou voire qui te pousse à te donner des conseils. Et Caso était dans ce malgré le fait qu'il soit sur le banc, c'est-à-dire qu'il était vraiment dans l'esprit, quoi. Voilà.
L'importance des regards donc dans ce couloir qui mène à la pelouse munichoise. Il est un peu plus de 20h et le match le plus important de l'histoire de l'OM s'apprête à débuter. Ce match, ce titre, l'extase, nous allons vous les raconter dans le second épisode de ce podcast exceptionnel. RTL fête les 30 ans de la victoire marseillaise en Ligue des Champions. Cliquez sur l'épisode 2, l'épisode suivant. On vous attend à tout moment.